votre rendez-vous avec l'information et avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Le bras de fer entre gouvernement et syndicats de la fonction publique se jouera dans la rue cet après-midi.
Oui, les organisations appellent à une mobilisation nationale pour de meilleurs salaires. On tâchera de comprendre comment la rémunération des fonctionnaires a évolué ces dernières années, mais également si un lien existe entre précarité et manque d'attractivité. Enfin, avec notre invité Marion Mauchossé, on s'intéressera à cette tendance de fond, le recours de plus en plus systématique à des contractuels. On se rendra à Marseille où Emmanuel Macron est en visite, surprise depuis ce matin pour le lancement d'une opération destinée à porter un coup d'arrêt au trafic de drogue qui gangrène la deuxième ville de France. À suivre également la situation de plus en plus catastrophique dans la bande de Gaza où le risque imminent d'une famine généralisée s'ajoute désormais au désespoir de la guerre. Et puis en Ukraine, là-bas non plus, rien ne semble pouvoir faire taire le bruit des armes. Les bombardements de l'envahisseur russe se sont même intensifiés à la frontière dans le nord-est du pays. Nous serons en direct depuis Kiev. Même à la veille de la date fournie par l'Institut de mécanique céleste, sans doute est-il encore trop tôt et surtout exagéré pour parler de printemps syndical. Il n'empêche que c'est avec une rare unité dans l'appel à la mobilisation que les organisations représentatives défileront unies aujourd'hui pour défendre les quelques 5,7 millions d'agents de la fonction publique, plus exactement pour obtenir des hausses de salaire écartées jusqu'ici par le gouvernement dans un contexte budgétaire contraint, 10 milliards d'économies annoncées pour cette année et encore le double l'an prochain. La semaine dernière, la réunion sur les salaires a tourné court, 7 syndicats ont claqué la porte, de quoi donner un aperçu donc du niveau de la colère. Alors bien évidemment, l'ampleur de la mobilisation sera l'un des enjeux de cette journée. Une centaine de cortèges sont prévus dans toute la France. Les pourcentages de grévistes devraient être toutefois a priori moins élevés que lors des dernières manifestations d'il y a un an contre la réforme des retraites. En revanche, il semble d'ores et déjà acquis que les perturbations les plus fortes concerneront l'éducation nationale. Wafia Kienich, bonjour.
Bonjour.
Les syndicats réclament donc l'ouverture de négociations immédiates sur les salaires, sauf que le gouvernement a déjà clairement indiqué qu'il ne comptait pas mettre la main à la poche, et pour cause, puisque le ministère argue que le pouvoir d'achat a progressé chaque année depuis 2015. Dès lors, Wafia qui livrait.
Alors, comme souvent, tout est une question de point de vue. Le gouvernement se base sur un document envoyé aux syndicats selon lequel le pouvoir d'achat des agents publics a été maintenu depuis 2022, par exemple, grâce à 13,8 milliards d'euros dépensés dans des augmentations générales. Les syndicats rétorquent que ces chiffres ne rendent pas compte de la réalité de ce que vivent les fonctionnaires. Pour la CFDT, par exemple, ces données sont celles de l'augmentation de la masse salariale qui est ensuite divisée par le nombre d'agents. Et ensuite, on nous dit, vous voyez, on a gagné du pouvoir d'achat, explique Mylène Jacot, la secrétaire générale de la CFDT Fonction publique, qui ne nie pas que certains secteurs ont été augmentés. Par exemple, le Ségur de la santé a coûté 8 milliards d'euros, mais il ne concerne pas tous les fonctionnaires. Par ailleurs, dans ces chiffres, le gouvernement comptabilise les promotions individuelles et les avancées de carrière automatiques. Pour les syndicats, ce n'est pas cela une augmentation générale. Les organisations préfèrent se référer aux chiffres de l'INSEE, l'Institut de statistique pour qui la paie des salariés du privé a augmenté deux fois plus vite que celle des fonctionnaires entre 2011 et 2021. Des salaires trop faibles qui font de la fonction publique un secteur peu attractif. D'ailleurs, plus de 60 000 emplois sont vacants chez les fonctionnaires.
Et précisément, Wafia, sait-on jusqu'à quel point le niveau de rémunération joue donc sur ce manque d'attractivité dans la fonction publique?
Oui, un réel manque d'attractivité. Pour preuve, le ministère des Armées expliquait hier qu'il ne parvenait pas à garder ses personnels. Les hospitaliers manquent ô combien et dans tous les domaines. Quant au ministère de l'Éducation nationale, chaque rentrée, les directeurs d'établissement serrent les dents pour mettre un prof devant chaque classe selon la formule désormais consacrée. Mais on ne sait pas précisément le chiffre de la part du salaire dans cette désaffection. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus compensé par des conditions de travail qui se sont dégradées. Les syndicats regrettent aussi la mauvaise presse faite sur la fonction publique, une vision que l'on pensait améliorer depuis les attentats ou le Covid. Le gouvernement évoque aujourd'hui des primes au mérite, comme si, regrettent les syndicats, les fonctionnaires avaient besoin d'être remis au boulot.
Merci Wafia Kenich. On évoquait donc à l'instant le manque d'attractivité. C'est ainsi que ces dernières années, le nombre d'agents recrutés sans avoir le statut de fonctionnaire a explosé. Une véritable révolution silencieuse. Alors jusqu'à quel point le recours aux contractuels s'est-il accéléré? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Marion Mauchausset, économiste du travail, maîtresse de conférences à l'Université catholique de Lille. Bonjour madame.
Bonjour.
Lorsqu'on évoque le recours massif et souvent précipité d'ailleurs à des contractuels dans la fonction publique, c'est généralement pour parler de l'éducation nationale et de l'état de délabrement dans lequel se trouve aujourd'hui ce service public. Est-ce que les problématiques liées à ce secteur en particulier sont représentatives plus généralement d'une tendance de fond ?
Alors oui, bien sûr, hein, ces revendications, elles se placent dans un contexte plus large, hein, d'un mouvement de remise en cause du statut de fonctionnaire, et ce plus particulièrement depuis, je dirais, le début des années 2000, hein, avec l'apparition de différentes réformes aussi, de nouveaux statuts d'emploi tels que le CDI de droit public, par exemple, qui s'est développé à partir de 2015, et du coup, également de réformes telles que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui, du coup, a fait un peu mécaniquement augmenter la part des contractuels dans la fonction publique. Donc, pour juste vous donner quelques chiffres, en 2006, on comptait environ 10% de contrats qu'on peut appeler temporaires dans la fonction publique, hein, donc c'est-à-dire de contrats plutôt de court terme. Aujourd'hui, on est plutôt proche des 17-18%. Entre 17 et 19% dans la fonction publique, sans compter les CDI de droit public qui commencent à prendre une part de plus en plus importante dans le secteur.
Est-ce que les trois fonctions publiques, donc d'État, territorial et hospitalière, sont touchées de manière semblable ? Et par ailleurs, comment les trois niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire les catégories A, B ou C, sont-ils concernés par ce mouvement ?
Alors, en fait, la fonction publique hospitalière, elle a tendance à recourir un peu plus, hein, aux contractuels que les deux autres fonctions publiques. Mais en fait, dans les trois versants, finalement, il y a une tendance globale, hein, à la hausse du recours aux contractuels dans la fonction publique. Et finalement, au-delà de savoir quelle catégorie d'emploi est la plus touchée par cette augmentation, il faut vraiment plutôt distinguer les types de contrats qui sont offerts à ces agents, je dirais. Et donc, c'est pas la même chose, par exemple, d'offrir un emploi contractuel de CDI bien payé avec des bonnes conditions de travail, parfois même mieux payé, hein, que les fonctionnaires, que d'offrir des CDD d'un mois ou moins, parfois mal payés. Et donc, ce sont plutôt, en fait, finalement, les agents qui se trouvent au bas de la hiérarchie, qui en fait pâtissent de conditions d'emploi plus défavorables et conditions de travail également plus défavorables.
Comment selon vous, je me permets de vous couper, faut-il analyser ce mouvement ? Est-ce qu'il faut y voir l'accumulation en somme de solutions donc ponctuelles à des contraintes très circonstanciées, comme par exemple la difficulté à recruter faute de candidats au concours dans certains métiers, ou bien s'agit-il d'un recul plus global du modèle fondé sur le statut spécifique donc des fonctionnaires ?
Ce qu'on sait quand même depuis, c'est que depuis les années 90, en fait, on a une décentralisation, hein, de la masse salariale des ministères vers les établissements publics. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, que avant, l'enveloppe de masse salariale, c'est-à-dire les rémunérations des agents publics, était gérée par les ministères et elles sont désormais gérées par les établissements, donc les universités, les musées, les hôpitaux, etc. Et donc, chaque année, le ministère donne une enveloppe de dotation aux établissements, mais le problème, c'est que cette dotation du ministère, elle est insuffisante pour compenser les coûts d'avancement de carrière, les augmentations de salaire qui sont liées à l'ancienneté, et ce qui fait que les établissements doivent en priorité d'abord payer les fonctionnaires et leur évolution de carrière, parfois même sur fonds propres, et puis ensuite répartir un peu cette masse salariale sur les contractuels, donc en s'assurant de répondre aux besoins de services publics, et donc en recrutant souvent des CDD avec des salaires plus faibles que les fonctionnaires, avec des durées parfois plus courtes aussi, des contrats plus courts. Donc en fait, finalement, c'est à la fois des arbitrages qui sont, ponctuels, mais en fait, qui ont lieu finalement dans une politique structurelle globale du gouvernement depuis, comme je disais tout à l'heure, depuis le début des années 2000, qui vise un peu à détricoter et finalement à grignoter le statut de fonctionnaire au profit d'un recours un peu plus important aux contractuels.
Une dernière question, vraiment, en quelques mots, s'il vous plaît. On l'a dit, les revendications du mouvement d'aujourd'hui portent essentiellement sur les salaires. Est-ce que le recours croissant à des contractuels participe aussi de cette précarisation ?
Oui, du coup, finalement, parce que, comme je vous le disais, ça amène finalement une précarisation assez généralisée de la fonction publique, hein, avec des dynamiques de rémunération du secteur au global qui sont en fait tirées vers le bas par des faibles rémunérations des contractuels de la fonction publique. Et donc, ces questions, elles posent aussi, comme vous l'évoquiez, hein, la question de l'attractivité du secteur. On le voit avec les métiers d'enseignant, hein, mais elles posent aussi la problématique des questions de la reconnaissance du métier avec des missions équivalentes qui peuvent être exercées par des contractuels qui n'ont pas forcément obtenu concours, qui sont moins bien payés, donc avec une protection de l'emploi moindre, etc. Et ce qui est demandé là dans le mouvement actuel, c'est une revalorisation des salaires via une hausse du point d'indice. Et le point d'indice sert aussi de base pour le calcul des salaires pour les contractuels. Donc
c'est
finalement, c'est les rémunérations de toute la fonction publique dont il est question ici.
Merci Marion Mochaussé, économiste du travail, maîtresse de conférence, je le rappelle, à l'Université catholique de Lille, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Après l'avoir rejeté il y a un an et encore il y a deux semaines à peine en commission des lois, les députés devraient pourtant approuver cet après-midi la fusion controversée des deux acteurs de la sûreté nucléaire.
Oui, l'ASN d'un côté, le gendarme des centrales, et l'IRSN de l'autre, chargé de l'expertise technique. Alors le projet n'a pas changé, il prévoit toujours la création d'une autorité commune, sauf que le Rassemblement national, qui s'était abstenu une première fois avant de voter contre cette fusion, a fini par joindre ses voix à celles de la majorité d'une partie des Républicains. Emmanuel Macron est arrivé à Marseille ce matin pour une visite surprise sur la lutte anti-drogue. Une opération d'envergure était bien prévue dans la cité phocéenne, gangrénée et plus encore ensanglantée par le narcotrafic. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice étaient d'ailleurs déjà sur place, jusqu'à être finalement rejoint donc par le chef de l'État, qui tenait à annoncer lui-même le lancement de cette opération décrite comme sans précédent. Adrien Beck, vous êtes sur place.
Oui, effectivement, Emmanuel Macron toujours au pied de ces façades gris-ocre de la cité de la Castellane. Nous sommes dans le nord de Marseille. À son arrivée, il y a un peu plus d'une heure, sur le capot d'une voiture de police, une carte dépliée de Marseille, quelques points montrés au président par le préfet et la commissaire de police, dont la Castellane. Et c'est donc là où un tag juste en face de moi indique les horaires du point de deal, 10h, 3h, 7 jours sur 7, tout ça au pied d'une fresque de Zinedine Zidane. C'est là que depuis hier, policiers et gendarmes interviennent. C'est donc l'opération Place Net XXL, 5 quartiers à Marseille, des inspections de caves, contrôle d'identité. On les tient, ces caves, garantissait tout à l'heure une policière. Déjà, dit-on, 80 personnes interpellées, 140 000 euros saisis. Les habitants, eux, s'interrogent un petit peu. Les 6 000 habitants de la Castellane sont-ils des trafiquants, demandait une dame au président. Un jeune, de son côté, a appelé le chef de l'État à calmer ses CRS. Ils sont là pour vous protéger, répond Emmanuel Macron. C'est pas une protection d'envoyer des bombes lacrymo à 4 heures du matin, rétorque une maman. Inadmissible, concède alors Emmanuel Macron. Il y a 15 jours, le président du tribunal judiciaire de Marseille s'inquiétait. Nous sommes en train de perdre la guerre face au trafic, disait-il. Emmanuel Macron, ce matin, veut montrer qu'elle continue et redouble d'intensité.
Merci Adrien Beck à Marseille. Si les dangers pour notre santé que produit l'excès de sucre sont désormais bien connus, on en consomme pourtant toujours trop, généralement dès l'enfance, mais parfois aussi à notre corps défendant. Pourquoi ? Parce que dans les produits transformés, boissons, biscuits, charcuteries, produits laitiers, plats préparés, le sucre est partout. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation publiée ce matin. Les explications de Catherine Pétain.
Le nombre d'ingrédients sucrants différents a baissé dans les produits vendus, mais les recettes ne sont pas forcément moins sucrées. Plus des trois quarts des aliments transformés contiennent au moins un ingrédient qui sucre, souligne l'ANSES. L'agence s'est penchée sur la composition de 50 000 aliments transformés. Il faut dire que pour le consommateur, ce n'est pas toujours facile de s'y repérer, car le sucre est désigné sur les emballages par des nombreux termes. Saccharose, sucre, sirop de glucose fructose, aspartame, dextrose, sirop de mélasse et bien d'autres. Désormais, dans les produits des supermarchés, on trouve moins d'ingrédients comme le sirop de sucre ou les édulcorants, car les industriels ont changé leurs recettes. Ils privilégient désormais des ingrédients courants comme le sucre blanc. Mais d'autres sucres, ça ne veut pas dire moins de sucre. Il y en a encore un peu partout, sans surprise dans les compotes, les barres de céréales ou les préparations laitières, mais aussi au rayon salé. On en trouve dans 94% des sauces, 87% des snackings surgelés, dans la charcuterie 84% ou les plats cuisinés frais 71%. Il est d'autant plus difficile de mesurer des effets en termes de santé publique que les informations sur les quantités sont rarement disponibles sur les emballages. Or, on sait que la réduction des sucres ajoutés est un levier majeur pour réduire de nombreuses maladies, à commencer par l'obésité et le diabète. On sait aussi que c'est possible de le faire. L'ANSES publie en même temps une étude sur les boissons sans alcool sucrées. Elles font depuis 2012 l'objet d'une taxe, désormais proportionnelle à la teneur en sucre ajouté. Et depuis lors, la teneur du sucre a singulièrement baissé.
Vous écoutez France Culture, il est 12h45 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Après 5 mois de bombardements quotidiens et plus de 31 000 morts, Israël a annoncé hier la disparition d'un chef adjoint de la branche armée du Hamas. Son nom, Marwan Issa, numéro 3 de l'état-major du mouvement islamiste, soit le plus haut gradé de l'organisation tuée depuis le début de cette guerre, mais dont la plupart des experts estiment que le décès ne devrait pas avoir d'effet dévastateur sur la structure de direction du Hamas, du moins pas de nature à éradiquer l'organisation ainsi que l'ont conjuré de le faire les autorités israéliennes. Pendant ce temps, les pourparlers en vue d'une trêve assortie de la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens se poursuivent. Le secrétaire d'État américain est attendu demain en Arabie Saoudite et jeudi en Égypte. Anthony Blinken, qui dès ce matin prévient 100% de la population de Gaza, subit aujourd'hui une insécurité alimentaire grave, ce que confirme une nouvelle évaluation publiée par l'ONU, selon laquelle, Étienne Monin, le risque de famine est désormais imminent.
Les cas les plus extrêmes se trouvent dans le nord de la bande de Gaza. Au moins 10 enfants sont morts de malnutrition et de déshydratation dans les hôpitaux. Les maisons ont déjà été pillées. Il n'y a plus de réserve de nourriture pour les 3 à 500 000 habitants, dit Hussein Murtadja. Il est directeur d'une association qui possède une équipe dans le nord.
Mes voisins sont entrés chez moi il y a déjà 3 mois pour prendre des provisions. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans les maisons du nord de Gaza.
À Gaza, les gens ne mangent pas tous les jours. Cette situation touche toute la population. C'est ce qu'on appelle le stade d'insécurité alimentaire grave. Si rien ne change, l'état de famine devrait être constaté en mai, ce qui est rarissime à cette échelle de population, dit Cyril Le Kief, référent sécurité alimentaire à Action contre la faim.
C'est quelque chose qui est très rare. La situation à Gaza est absolument dramatique, exceptionnelle. Et ce type de situation n'a encore été jamais vu de par le nombre de personnes qui souffriront de famine dans les 2 prochains mois.
Pour déclarer l'état de famine, il faut 3 critères. Il faut que le manque extrême de nourriture touche 1 personne sur 5, qu'un tiers des enfants soient concernés et qu'il y ait un certain taux de mortalité. 2 de ces critères sont atteints, faute de soutien humanitaire suffisant dans le nord, freiné depuis des mois par les restrictions de l'armée israélienne.
Les États-Unis ne laisseront pas tomber l'Ukraine.
Déclaration signée ce matin du secrétaire à la Défense alors qu'une aide américaine est toujours bloquée au Congrès et que les troupes ukrainiennes manquent d'armes, sans compter que Kiev fait état par ailleurs de l'intensification des bombardements russes, notamment sur sa région frontalière de Soumy dans le nord-est du pays. Camille Magnard, bonjour.
Bonjour Thomas.
Envoyé spécial de France Culture à Kiev, dans cette région de Soumy, donc partiellement occupée au début de l'invasion, le nombre d'alertes aériennes, Camille, a considérablement augmenté.
Oui, pas un jour ici sans que l'on liste les bombardements sur cette région de Soumy, où la police affirme même qu'il y a eu 240 attaques russes rien que pour la journée d'hier lundi. Il faut dire que ce secteur de la frontière entre l'Ukraine et la Russie se trouve à portée de l'artillerie russe, mais aussi des attaques de drones, des bombes guidées ou des mines larguées par avion, et même des tirs de tanks et de lance-roquettes depuis le territoire tout proche. Alors heureusement, on ne dénombre pas des morts à chaque fois. 6 personnes au moins ont été tués depuis début mars, mais les autorités locales ukrainiennes décrivent surtout des villages en ruine à force d'être bombardés, des paysages presque semblables à ceux que l'on peut voir dans les secteurs les plus actifs du front dans le Donbass. Sauf que là, en théorie, il n'y a pas de front, juste une frontière qui est devenue, c'est vrai, particulièrement sensible ces dernières semaines. C'est de la région de Soumy que sont partis certains des groupes de combattants pro-Ukraine, qui mènent des opérations militaires contre l'armée russe dans la région voisine de Kursk. Kursk, où ils ont repoussé les forces militaires russes sur plusieurs kilomètres. Les Russes intensifient donc leur frappe sur la région de Soumy, qu'ils considèrent comme la base arrière de ces incursions. Les Ukrainiens, eux, ont évacué la population de certains villages et semblent considérer que la menace russe ne vient plus seulement que du ciel. Ils font savoir que des travaux sont en cours pour renforcer les trois lignes de défense censées protéger la région de Soumy d'une éventuelle attaque russe au sol.
Merci Camille Magnard en direct de Kiev. Même si les marchés financiers avaient largement anticipé depuis vendredi dernier déjà ce retour à une forme de normalisation, la Banque du Japon a officiellement relevé ce matin son taux directeur au camp. L'institution met fin à sa politique de taux négatif qu'elle était la dernière au monde à pratiquer. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec partout du soleil à l'exception des Pyrénées. Le ciel restera menaçant en particulier sur l'est de la chaîne quant aux températures. Elles seront comprises entre 14 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.